15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est en direct du lundi au vendredi, tous les jours de 15h à 16h. Sans Rendez-vous, c'est l'émission dans laquelle on essaye de vous faire du bien. Et pour vous chouchouter, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux kilos émotionnels. Vous craquez souvent pour une tablette de chocolat, même si c'est pas raisonnable car vous avez quelques kilos à perdre, vous n'arrivez pas à réfréner votre envie d'un gros burger, et bien c'est normal. Notre rapport à notre poids est souvent régi par notre mental. Avec nos invités, le médecin nutritionniste Patrick Serog et la psychanalyste Roselyne Lévy-Basse, nous allons vous apprendre à faire sauter les verrous psy qui vous empêchent de maigrir. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du traitement des nausées et des vomissements pendant la grossesse. Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler de la narcolepsie. Savez-vous ce qu'est réellement ce trouble du sommeil, certes rare, mais qui peut être très invalidant? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de libido et de parentalité quand les enfants quittent le domicile parental. Pour eux, cela peut être parfois un chamboulement sur le plan sexuel. Elle nous expliquera tout ça.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Marine.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, ma fille a une grosse tache dans le dos avec des petits poils dessus. Et en fait, les pédiatres m'ont dit de voir avec un dermato spécialisé dès que possible. Mais je vous avoue que je suis très inquiète. Est-ce que c'est possible d'avoir un cancer de la peau dès la naissance ?
Alors, le cancer de la peau chez un nourrisson, est-ce que c'est possible? Alors, le cancer de la peau, c'est pas particulièrement le mélanome, dont on a déjà parlé dans cette émission. C'est très souvent causé par une forte exposition au soleil. Alors, chez un bébé, pas sûr que ce soit possible quand même. Pour en savoir plus, notre journaliste, Benjamin Lévesque, a posé la question à une spécialiste. On écoute la réponse du professeur Caroline Robert, chef du service de dermatologie à l'hôpital Gustave Roussy.
Alors, c'est extrêmement rare. Ce que raconte l'auditrice, ça évoque vraiment ce qu'on appelle un névus congénital, un grain de beauté congénital, c'est-à-dire un grain de beauté présent à la naissance. Ils ont souvent des poils, ils sont pileux souvent. Alors, s'ils font moins de 20 cm, ils sont considérés comme à très faible risque, mais sinon, il faut quand même les surveiller parce que c'est un groupement de mélanocytes, donc de cellules de la pigmentation, qu'il faut surveiller comme un grain de beauté. Les risques de dégénérescence, si c'est moins de 20 cm, ils sont quasiment nuls, mais moi je pense qu'il faut quand même surveiller. C'est vrai que ce serait bien de le montrer à un dermatologue, mais si c'est pas quelque chose qui grossit rapidement, a priori c'est juste un grain de beauté congénital.
Ok, donc on a compris qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça se surveille, c'est quelque chose quand même d'extrêmement rare, un cancer de la peau dès la naissance, et heureusement. En revanche, Jimmy, c'est peut-être l'occasion pour nous de rappeler que les petits-enfants, les bébés surtout, c'est vraiment zéro soleil la règle.
Oui, c'est le message qu'il faut retenir. Un coup de soleil, évidemment que c'est douloureux, mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le coup de soleil peut modifier l'ADN de façon irrémédiable, l'ADN de l'enfant, et que deux coups de soleil avec pelade, c'est-à-dire le fait de perdre sa peau avant l'âge de 12 ans, multiplie par 10 le risque d'être touché par un mélanome.
Ah oui, c'est énorme.
Attention
risque,
à l'exposition.
Et donc les enfants, on les protège du soleil, bien sûr, avec de la crème, mais pas seulement.
Oui, tous les spécialistes disent qu'avant 3 ans, il faudra à tout prix éviter de s'exposer au soleil.
Du tout, il ne faut pas du tout.
Du tout, exactement. Et pour ça, il faut évidemment mettre le parasol, la casquette, des vêtements couvrants. On évite le bébé, les fesses à l'air, c'est bien sûr pour la photo.
Bien sûr, quand on en voit sur les plages, c'est fou ça.
C'est terrible. Un traitement donc avec la crème solaire, avec un écran total ou un indice de haute protection. Et donc, d'autant plus que ces traitements sont souvent pas très chers, accessibles à tous. Et c'est un investissement pour le capital santé de la peau de votre enfant.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Margot, 30 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu parler de décollement de la rétine. Je trouve le mot hyper barbare, donc ça me fait un peu peur. Je voulais savoir ce que c'était exactement. Est-ce qu'il y avait un public en particulier qui était touché? Vers quel âge ça pouvait arriver? Et est-ce que c'était fréquent? Je vous remercie, bonne journée, au revoir.
Jimmy, alors le décollement de la rétine, est-ce que c'est quelque chose de fréquent?
Alors quand même, ça touche une personne sur 10 000 chaque année. C'est plus fréquent après 50 ans. Et c'est dans l'immense majorité des cas secondaire à un déchirement de la rétine qui va permettre à un petit liquide qui se trouve derrière la rétine de décoller cette rétine et qui va entraîner des troubles de la vue qui, lorsqu'ils ne sont pas traités, peuvent entraîner une cécité, donc on peut perdre la vue si ce n'est pas pris en charge de façon chirurgicale et très rapidement.
C'est une urgence. Donc pourquoi tout d'un coup la rétine, elle peut se décoller comme ça? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque?
Oui, on sait qu'après 50 ans, c'est plus fréquent. Bon, donc on sait que le fait d'avoir une forte myopie augmente le risque de décollement de rétine. Et puis, lorsqu'on a été opéré de la cataracte, on sait que ça fait partie des effets possibles. Et lorsqu'on a un traumatisme oculaire, il faut savoir que le fait d'avoir aussi des antécédents familiaux de décollement de rétine.
Ah oui, un père ou une mère à qui c'est arrivé, il faut faire attention. Il n'y a pas des maladies aussi qui peuvent augmenter ce risque, je crois?
Oui, les patients diabétiques, avec notamment la rétinopathie, donc ont plus de risques. Les patients qui sont hypertendus, d'où l'idée de voir l'ophtalmo de façon régulière, on le dit souvent, mais ça a cet intérêt-là.
Particulièrement pour ces patients-là. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, quels sont les symptômes qui doivent faire penser qu'on a peut-être un décollement de rétine?
Là où c'est traite, c'est que ça fait pas mal. L'œil n'est pas rouge, il n'est pas douloureux. En revanche, vous commencez à avoir des petits points lumineux, le champ visuel qui se rétrécit, et vous dites c'est bizarre, c'est comme s'il y avait une page qui manquait, il y a des taches noires. Et à ce moment-là, une seule chose à faire, c'est de consulter en urgence l'ophtalmologue, si possible au travers des urgences, parce que souvent avoir rendez-vous c'est compliqué. Si vous négligez les symptômes, on ne peut plus traiter par la suite ce décollement de rétine.
Donc c'est très très important et surtout toujours une urgence. Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Margot qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du traitement des nausées et des vomissements pendant la grossesse. Et puis, on accueillera aussi nos deux invités du jour, le médecin nutritionniste Patrick Serog et la psychanalyste Roselyne Lévy-Basse, qui vont tout nous expliquer. Ils vont nous dire comment faire sauter les verrous psy qui nous empêchent de maigrir. Ça paraît déjà passionnant. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à présent, on passe au bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un symptôme que beaucoup de femmes ont connu quand elles étaient enceintes, les nausées et les vomissements lors de la grossesse. D'abord, rappelez-nous pourquoi on en a.
Alors c'est très fréquent, on estime à 85% des femmes qui en auront pendant leur grossesse.
Ah oui, quand même.
On sait que le maximum, le pic est atteint à la 9e semaine de grossesse et ça dépasse rarement la 14e semaine.
Heureusement.
Les causes sont plutôt mal connues, on sait que c'est multifactoriel, on pense qu'il y aurait une combinaison de mécanismes métaboliques, environnementaux, ethniques ou psychologiques, sans qu'on puisse en identifier informellement. On sait évidemment que c'est lié à une modification hormonale au début de la grossesse et notamment la production de progestérone. Bonne nouvelle, plus vous avez de nausées, moins vous avez de risque de fausse couche.
Ah,
c'est ce que les études prouvent.
Bon
donc
signal,
comme si
finalement.
Le fœtus était bien accroché, même si ça reste un symptôme qui est très pénible à vivre pour les femmes.
Et oui, même si c'est donc difficile à supporter. Heureusement, il faut quand même dire que c'est rarement grave, on est d'accord?
Oui, mais le problème, c'est que c'est souvent sous-estimé, il faut le reconnaître, par les professionnels de santé, l'environnement ou la patiente elle-même en se disant
«
Vous
enceinte,
êtes enceinte,
t'as des nausées,
fais avec ». D'autant plus que parfois, les femmes se disent que si elles prennent un traitement, celui-ci pourrait être néfaste pour le fœtus puisqu'on se dit « On ne veut pas prendre de médicaments, on cherche à se préserver ». Or, on sait que si on laisse installer des nausées et des vomissements, ils peuvent entraîner ce qu'on appelle l'hyperémèse gravitique. C'est la forme la plus sévère de nausées et de vomissements lors de la grossesse. C'est quasiment 2% des femmes. C'est un diagnostic clinique avec une perte de poids de 5%, une déshydratation et un bilan qui serait perturbé, qui conduit systématiquement à une hospitalisation. Donc, il faut éviter de laisser traîner ces nausées.
C'est la phase extrême, effectivement. Alors, comment on fait pour atténuer au moins les symptômes quand on en souffre? Ce n'est pas forcément hyper grave, mais c'est désagréable.
Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'est même pas sûr que ce soit réellement des nausées. Certains pensent qu'il serait l'équivalent d'une faim parce que l'estomac serait vide. D'où l'idée de fractionner le repas et d'avoir systématiquement quelque chose à grignoter. Certaines femmes vont manger des céréales, d'autres des morceaux de banane pour essayer de combler ce jeûne.
Des petits bonbons au gingembre, moi je conseille.
Alors oui, le gingembre en fait partie. L'OMS recommande ce traitement à raison de 250 mg de rhizome séché par jour. Ça permet de limiter les nausées, fractionner les repas, bien s'hydrater, privilégier plutôt les aliments qui seraient pauvres en graisse, éviter les odeurs de cuisine. Boire, on l'a dit, mais les traitements, les antivomitifs, souvent sont très peu efficaces. On en prescrit soit par suppositoire, soit par voie orale. Mais on sait que c'est plus une histoire d'alimentation et de fragmentation qui permet de lutter contre ces symptômes.
Mais il existe quand même un traitement assez puissant qu'on donne notamment dans certaines chimiothérapies. On peut l'utiliser là?
Exactement. C'est ce qu'on appelle le Zofrène. Ce traitement qu'on prend lorsqu'on a des nausées et des vomissements lors des chimiothérapies a une autorisation pour les nausées et les vomissements des femmes enceintes. C'est peu connu, peu prescrit, mais on sait que c'est plutôt efficace. Les Canadiens l'utilisent énormément. Donc en dernier recours, Si toutes les petites mesures n'ont pas suffi, vous pouvez en discuter avec votre gynécologue qui peut-être vous prescrira ce traitement.
Eh bien, merci docteur Jimmy Mohamed pour cet éclairage et donc cette astuce. On ne savait pas, il y a quand même un médicament qui peut être utilisé dans les cas les plus sévères. À présent, nous accueillons nos deux invités pour le dossier du jour. C'est le médecin nutritionniste Patrick Serog et la psychanalyste Roselyne Lévy-Basse. Ils sont les auteurs du livre « Faites sauter les verrous psy qui vous empêchent de maigrir pour en finir avec les kilos émotionnels » aux éditions Marabout.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur notre plateau. On est ravis de vous recevoir. Alors avec vous, on va parler d'un sujet de préoccupation majeure, notre poids et surtout nos problèmes de poids. Mais d'abord, docteur Serog, peut-être qu'on va en rassurer certains, le poids, quoi qu'il en soit, il évolue au cours de toute notre vie. On ne reste pas toute sa vie à 50 kilos. C'est quelque chose de normal, c'est rare.
C'est vrai. Le poids évolue au cours de la vie parce que le métabolisme change. On n'a pas le même corps ni la même fonction finalement tout au long de notre vie. Chez les femmes, la prise de poids va se faire surtout à des événements particuliers comme la grossesse ou la ménopause. Et chez l'homme, eh bien, c'est une prise de poids qui va être assez régulière tout au long de la vie.
Et petit à petit, on arrive, j'allais dire, dans l'état du docteur Jimmy Mohamed. Non, il est très bien encore.
Non, mais la prise de poids est quand même, elle est de 10 à 12 kilos en moyenne.
Ah oui, non, ça va, vous avez le temps.
Sur
encore.
Une vie.
Ouais, mais si, vous avez raison, j'ai pris ces 10 kilos, je faisais 10 kilos de moins avant d'avoir des enfants. Excusez-moi d'avoir eu des enfants.
Voilà. Les grossesses ont eu un impact chez les hommes.
Mais
aussi,
oui, ça existe,
ça
absolument.
C'est pas aussi un peu, il y a pas quelque chose de génétique aussi avec le poids quand même?
Alors, il y a une susceptibilité particulière chez des individus en fonction de leur histoire familiale. Si vous avez un papa et un maman qui sont un peu forts, bien sûr, vous avez plus de risques d'avoir des gènes qui sont sensibles à l'environnement.
Jimmy ?
Roselyne Lévy-Basse, vous parlez du juste poids. Qu'est-ce que c'est que ce juste poids d'un point de vue psy, si on peut dire la chose comme ça ?
Le juste poids, c'est le poids dans lequel on se sent bien dans son corps. Et qu'on ait quelques kilos de plus ou quelques kilos de moins, peu importe, parce que ce qu'on constate, c'est que le poids, ça constitue une partie de son identité. Qui oui. Ça, pose problème d'ailleurs quand des gens veulent maigrir.
Et alors le juste poids, oui. De votre juste poids à vous de psychanalyste et votre juste poids à vous de médecin nutritionniste, c'est peut-être pas le même, non? Je sais pas, parce qu'on peut se sentir bien même avec 30 kilos de trop, j'imagine, enfin je sais pas.
Oui, on peut se sentir bien avec 30 kilos de trop, sauf qu'à 30 kilos de trop, on peut avoir beaucoup plus de problèmes métaboliques, des problèmes articulaires, des problèmes finalement de santé, qui font que même si on se sent bien, on se dit qu'il faudrait quand même faire quelque chose.
Et les kilos émotionnels, dont on va parler beaucoup plus en détail après, on en a tous? Tout le monde a des problèmes de kilos émotionnels? Non, c'est quand même pas tout le monde.
Alors, on a tous des émotions, mais on ne va pas tous traduire de la même façon dans notre corps ces émotions que nous emmagasinons en fait.
Mais c'est fréquent quand même.
Ah oui, c'est fréquent.
Merci à tous les deux. On ne fait que, bien sûr, que commencer cet entretien. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous revient très vite, c'est promis. Mais d'abord, une petite pause musicale. C'est Billie Eilish et son titre « Everything I Wanted ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et nos deux invités, le médecin nutritionniste Patrick Serog et la psychanalyste Roselyne Lévy-Basse. Docteur Serog, on va reprendre notre sujet donc des kilos émotionnels. C'est quoi précisément dans votre patientèle, par exemple, comment vous les identifiez sur tel ou tel patient? Vous dites, ah tiens, elle c'est du kilo émotionnel, elle non, enfin, ou lui d'ailleurs.
Oui, c'est en fait dans l'histoire du patient, puisque l'entretien commence toujours par « Vous avez commencé à grossir quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est votre vie ?» Et on s'aperçoit que quand on raconte finalement son histoire, eh bien, on fait passer des émotions qu'on a enfouies dans notre cerveau, ou des émotions que l'on vit directement, et on a des problèmes avec sa mère, avec ses enfants.
Avec le manque d'amoureux,
avec le manque d'amoureux, avec plein de choses dans la vie dans laquelle on a des émotions qui vont se traduire en partie, pour certains, pas pour tout le monde heureusement, mais par une prise de poids.
Roselyne, dans le livre, vous rappelez que manger, c'est un acte qui est très intime. Vous dites que ça remonte à notre naissance. Et vous parlez par exemple du cycle du don, donc donner, recevoir, rendre. Expliquez-nous un peu tout ça plus simplement peut-être.
Non, d'accord. Alors, le cycle du don, c'est donner, recevoir, rendre. Ça veut dire que dans toutes les relations, il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit et qui rend. Et le cycle du don, il est universel, il existe dans toutes les relations humaines et c'est important de comprendre qu'il s'installe dès la naissance. Dès la naissance, entre la mère et l'enfant, il y a la mère qui donne la vie, qui donne du lait, le bébé reçoit le lait et il le reçoit en l'avalant. Et en retour, il va manifester son contentement, son plaisir par des sourires. Ce qui va d'ailleurs encourager la mère à continuer à donner, à lui donner à manger. Donc, ça veut dire que le cycle du don, il est présent dans tous les rapports humains, aussi bien dans les relations familiales que dans les relations sociales, professionnelles ou amicales.
Dimi ?
Docteur Serog, donc c'est le cerveau qui contrôle notre poids, mais comment expliquer que lorsque les enfants sont couchés, et c'est vrai, je le vois tous les jours, eh ben on a envie de manger, on se jette sur la pâte à tartiner dont parlait Mélanie, mais j'ai envie de manger des gâteaux.
Mais c'est vrai,
les gâteaux, tout ce qui passe dès qu'ils sont couchés, c'est quoi ? C'est pas forcément un manque de volonté ? Il y a quelque chose qui se passe ?
Non, c'est pas un manque de volonté. C'est parce que quand vous êtes couché et que la journée va se terminer, si vous avez une insatisfaction dans votre vie, et même quand on est tout petit, on peut être insatisfait. Hein, il nous manque quelque chose, la journée n'est pas finie, notre sentiment finalement de plénitude dans lequel nous devons nous endormir et de paix, n'est pas réalisé.
D'accord.
À ce moment-là, on va aller chercher un morceau de gâteau parce que c'est sucré et gras.
Un bout de chocolat.
Un morceau de chocolat qui va nous calmer. Pour certains, d'ailleurs, c'est par exemple du lait tiède. Le lait tiède a une grande fonction grâce à certains acides aminés qui sont contenus dans le lait et qui vont apaiser et permettre l'endormissement.
Le lait tiède avec quelques cuillères de pâte à tartiner, c'est vrai que c'est bon. Je reviens toujours à la même chose. Alors, dans votre livre, vous dites que le régime, de toute façon, c'est très difficile de faire un régime quand on a du poids à perdre et qu'à un moment donné, de toute façon, on est un peu, je ne sais pas, conditionné par son cerveau à craquer. C'est prévu, hein, c'est ça, le cerveau, il est prévu pour ça, Roselyne ?
Enfin, le cerveau, il est prévu pour ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a passé beaucoup de temps, ben, justement,
la frustration,
à s'occuper des autres, à s'occuper des enfants, à travailler, à passer son temps à faire plaisir à l'autre, il y a un moment, c'est vrai, où on craque. Et c'est comme si on se disait, alors moi, là-dedans, où est-ce que j'existe et comment j'existe ? Et quand on se précipite sur une tablette de chocolat, c'est un moment finalement à soi. C'est un moment où plus rien d'autre ne compte que manger. Finalement, c'est une façon de s'occuper de soi.
Vous vous ressentez comme ça, Jimmy, quand vous craquez ?
Un petit peu, oui. Non, mais voilà, c'est ma psychanalyse. Mais par exemple, si on veut se faire on a un période de régime, on veut se faire un petit fast-food voilà, le vendredi soir, est-ce que c'est grave ou pas ? Si on a un sort de déprime ?
Non. Pas du tout. D'abord, on ne fait pas de régime, on essaie de manger correctement par rapport à son histoire, à son poids. Donc, faire aller au restaurant et manger des plats très gras ou aller dans un fast-food, ça ne pose aucun problème à partir du moment où ce n'est pas régulier.
Si c'est une fois dans la semaine et que le reste de la semaine, on fait attention, tout va bien.
Il y a 14 repas dans une semaine, donc une fois sur 14, ce n'est vraiment pas un problème.
Ça va, Jimmy, une fois sur 14, c'est bon.
Donc, par réconfort, on peut se permettre de faire ça.
Ah oui, absolument. Au contraire, on peut se permettre. Et c'est même bien de le faire. Je veux dire, c'est normal de partager, même avec des amis, des moments où on va manger des choses très différentes de ce que l'on fait tous les jours.
C'est ça qui explique que 80% des gens qui font un régime retrouvent finalement leur poids initial après aussi. C'est parce qu'on ne tient pas, le cerveau, il n'en peut plus d'être frustré.
Oui, on ne peut pas. Aucun être humain n'est capable de suivre un régime longtemps. Ça, il faut le savoir et il faut vraiment s'en rendre compte. Il ne faut pas faire de régime. Régime, ça veut dire se frustrer en permanence, ça veut dire réduire effectivement les quantités.
Et ce n'est pas durable.
Et ce n'est pas durable.
L'INSES le dit, hein. D'ailleurs, il y a eu un rapport sur les régimes qui montrait qu'aucun ne fonctionne en fait.
Aucun ne fonctionne. Il nous faut dans un repas environ 800 grammes d'aliments. Vous imaginez 800 grammes d'aliments pour faire un repas complet, pour apporter tous les nutriments dont nous avons besoin pour que notre corps fonctionne bien. Alors évidemment, si on se met à se restreindre de façon assez importante, on va être à 400 grammes, 500 grammes, c'est-à-dire que tous les repas, il manque 200 ou 300 grammes et au bout d'un moment, vous craquez.
On va reprendre 2 kilos d'un coup. Alors, docteur Serog, Roselyne Basse, Lévy-Basse, pardon, nous allons continuer cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe vraiment au conseil. Ça va intéresser, j'en suis sûre, tous ceux qui se sont reconnus juste là. Si vous pensez que vos kilos en trop sont en partie des kilos émotionnels, surtout restez. Ce qui va suivre va vous passionner. On va apprendre quelques astuces pour faire sauter les verrous psy qui nous empêchent de maigrir. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et nos deux invités, le médecin nutritionniste Patrick Serog et la psychanalyste Roselyne Lévy-Basse. Roselyne, d'abord peut-être on va passer à la pratique maintenant. Comment on les fait sauter ces verrous psy qui nous empêchent de maigrir ? J'imagine que ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux secondes hein, quand même.
Non, ouais, non.
Voilà. Vous n'avez pas la recette magique là, mais non, dites-nous un petit peu quand même.
En fait, d'abord ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe justement dans ce fameux cycle du don, c'est-à-dire de comprendre où est-ce qu'on en est dans son rapport à autrui, que ce soit avec ses enfants ou avec son conjoint, et comprendre déjà qu'est-ce qui se passe dans la relation avec autrui et jusqu'où on passe plus de temps, d'une certaine manière, à s'occuper des autres que s'occuper de soi. Déjà, ça, c'est important de le comprendre. Et la deuxième chose qui est aussi importante, c'est d'accepter que finalement, s'occuper de soi, c'est pas un acte égoïste. C'est pas prendre, parce que souvent, ça apparaît très suspect quand on dit qu'on va s'occuper de soi, aussi bien d'ailleurs, c'est un acte égoïste qui paraît suspect à ses propres yeux qu'aux yeux des autres. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est de comprendre ce qui se passe dans le cycle du don. Ensuite, on peut mettre en place des actions très simples, qui sont, voilà, comment se faire plaisir et comment s'occuper de soi, justement, autrement qu'en mangeant.
Et c'est ça. Et comment si on pense que ces problèmes de poids sont vraiment liés à des problèmes émotionnels, on fait quoi? On fait une liste de tous les problèmes psy qu'on peut avoir? Ça commence par ça? Peut-être poser sur le papier un petit peu les soucis?
Oui.
Vous avez dit, on les identifie.
On les identifie, ouais. C'est-à-dire, moi, je pense que ce qui est important d'identifier, c'est vraiment ce qui se passe dans la relation avec les autres. C'est jusqu'où on donne beaucoup et on a le sentiment qu'on reçoit peu, ou au contraire, justement, on a le sentiment que c'est difficile de recevoir et qu'on a du mal à accepter que les autres donnent, parce qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'on va être dépendant par rapport aux autres, ou jusqu'où on se sent injustement traité, par exemple.
Je ne comprends pas tellement le rapport avec le poids, là, en fait.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas d'espace pour soi, il y a un espace qui est privilégié, comme on disait tout à l'heure, c'est le moment où on mange.
C'est
le seul moment où on est bien, il y a certains patients qui me disaient, le bonheur est dans l'assiette, c'est-à-dire c'est un moment où plus rien n'existe.
C'est vrai.
La seule chose qui existe, c'est mon assiette et donc c'est moi.
Et puis c'est dans ces moments-là de nourriture émotionnelle, on va dire, parfois on n'est même pas très présent. Hein, c'est
oui, il y a une solitude. Il y a une solitude, c'est-à-dire en fait, on va vraiment prendre son plaisir. Donc on va se concentrer pratiquement sur la quantité qu'on va manger, sur l'aliment qui va nous faire plaisir. Donc c'est un moment où on perd un petit peu la notion de la réalité et de l'extérieur. On est centré sur nous-mêmes.
On pourrait dire qu'on perd la notion des autres. Mais c'est justement l'objectif.
Jimmy.
En revanche, docteur Sarok, vous dites que pour faire sauter les verrous psy, il faut essayer de lâcher un peu du lest et éviter notamment d'être obsessionnel sur son poids, de compter les calories en permanence, comme certaines applications peuvent nous le proposer.
Voilà. Beaucoup d'applications aujourd'hui nous amènent à penser uniquement à nos calories, à combien il y a d'acides gras saturés, de sucre et tout ça.
Bon. Vous n'aimez pas tout ça, vous, hein ?
Non, parce que ça renforce l'obsessionnalité que l'on peut avoir par rapport à la nourriture. Or, comment arriver à perdre du poids sans justement se frustrer ? Il y a trois notions. La première, c'est la structure. Il faut avoir une structure. C'est-à-dire, il faut qu'un repas soit composé au moins d'un plat principal, d'un légume avec une viande ou un poisson, un légume avec un féculent. Ensuite, il faut qu'il y ait un laitage et un fruit. Et puis, si on veut, si on a encore faim, plus faim, on peut rajouter une crudité. Là, on a vraiment une somme d'aliments qu'il faut se forcer à manger. Parce que très souvent, vous pouvez le voir quand vous allez manger avec vos camarades, vous avez juste un plat avec un café.
C'est ça. C'est
tout à fait insuffisant par rapport au corps.
On grossit parce qu'on ne mange pas assez aussi.
Exactement.
Au repas, en tout cas.
Contrairement à ce qui s'est passé quand j'ai commencé la nutrition, où on grossissait parce que, effectivement, on mangeait trop, on sortait d'une période économique où il n'y avait eu rien et tout d'un coup, il y avait plein d'argent. Et donc, à ce moment-là, on mangeait beaucoup. Et aujourd'hui, eh bien, on mange insuffisamment par rapport à son besoin. Ça, c'est vraiment le premier point.
Jimmy ?
Ce qui veut donc dire que quand on veut se débarrasser de ses kilos émotionnels, consulter un nutritionniste, ce n'est pas suffisant. Il faut faire le duo psy-nutritionniste, alors que ça ne paraît pas spécialement évident quand on pense ne pas avoir de problème psychologique.
Oui, alors voilà, ça dépend. Ça dépend. On n'est pas obligé, effectivement, d'aller voir un psychologue pour résoudre ses problèmes. Parce que souvent, d'abord, le psychologue, ça fait peur. Et il y a des gens qui mettent tout de suite des barrières à cela. Donc, il ne faut pas les effrayer, il faut le dire simplement. On peut effectivement aller consulter un médecin nutritionniste. Et puis ensuite, on va parler. Dans une consultation de nutrition, on ne fait pas que discuter de l'alimentation, mais on parle beaucoup aussi de ce qu'il y a autour. Et que peu à peu, quand on va prendre conscience d'un certain nombre de choses, on sent s'il faut se faire aider ou non. Voilà. Mais ce n'est pas évidemment un passage obligatoire.
Et si on est sûr qu'il y a un problème, je ne sais pas, lié à sa mère, à son conjoint, à ses enfants, on commence par le psy et après le nutritionniste, ou alors le bon duo en même temps,
alors,
c'est bien ?
Nous avons toujours travaillé ensemble, c'est-à-dire que, alors que Roselyne s'occupait de l'âme et des problèmes psychologiques, moi je m'occupais de la structure alimentaire.
De l'assiette.
Parce qu'on a toujours besoin en fait de deux choses. Un, où on va réfléchir à ce qui se passe en nous, et un autre où on va agir vraiment tous les jours avec soi-même. Et ces deux fonctions-là, quand elles sont coordonnées, donnent de très bons résultats.
Et même quand on veut maigrir, quand on a des problèmes de poids, vous dites, je crois qu'il faut adapter son alimentation à ce que l'on ressent. C'est-à-dire que si on est fatigué, stressé, enrhumé, ça veut dire quoi ? Je mange quoi ?
Par exemple, quand on est fatigué ou stressé, on va par exemple manger du chocolat tous les jours. Mais on va s'obliger à manger du chocolat tous les jours. Même les jours où on n'a pas envie de chocolat, car c'est là où c'est le plus efficace. À partir du moment où on installe un rituel sur un aliment qui est considéré comme un interdit, eh bien, on diminue énormément le niveau du stress.
Donc en fait, il n'y a aucun aliment interdit avec vous ?
Non, il n'y a aucun aliment interdit. Il n'y a que des aliments à organiser dans une alimentation en fonction de plusieurs critères. Les critères évidemment psychologiques, mais métaboliques également, et de l'histoire du patient.
Jimmy ?
Et quand on mange, puisque finalement on est très stressé, et donc c'est une forme d'anxiolytique, comment est-ce qu'on fait par remplacer cet aliment réconfort par autre chose ? Est-ce que vous avez des conseils ?
Eh ben, on va manger encore plus. Voilà.
Ah. Alors, bon, parce ça nous plaît là pour l'instant.
On va
moi
manger
j'aime
encore
bien,
plus. Hein. Parce que la notion
moi
de
je remplace la patate tartinée par plus de patate voilà, tartinée.
Parce que la... Alors, mais pas forcément la patate tartinée.
Ah bon, d'accord.
Voilà. Non, l'idée c'est de changer.
J'aime aussi les crudités, donc ça va. Hein. Oui, je veux faire un mélange.
Si vous voulez, il y a deux choses qui déstressent. Il y a effectivement les aliments gras et sucrés au niveau du cerveau, et il y a également la sensation de répulsion, c'est-à-dire celle d'être repu. J'ai bien mangé. Et je suis
content. J'ai la peau du ventre bien tendue, on est bien.
J'ai la peau du ventre bien tendue. Et ça, c'est la quantité alimentaire. Donc, il faut qu'on ait une distension de l'estomac qui va créer à ce moment-là, au niveau du cerveau, par un flux nerveux, une réaction de satisfaction.
Si je bois beaucoup d'eau, ça ne peut pas leurrer mon estomac.
Et vous savez pourquoi ? Parce que l'eau passe très rapidement, en fait, depuis l'estomac jusqu'à l'intestin et va être absorbée assez rapidement.
Ah oui.
Dans l'iléon.
Donc ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas. Mmh. Et du coup, lorsque, par contre, la digestion dure très longtemps, elle dure environ 36 heures.
Oui.
Ce qui fait que la masse alimentaire que vous allez manger va être broyée, broyée. Ben oui, parce qu'il faut que l'acide chlorhydrique puisse couper les différents aliments. Et ça prend du temps.
Mais cette distension de l'estomac, on peut l'obtenir avec des choses qui ne sont pas trop riches ou trop...
On l'obtient avec des légumes, on l'obtient avec effectivement des crudités ou des légumes cuits. Et on va l'obtenir aussi avec des quantités suffisantes de protéines, puisque les protéines vont avoir une fonction aussi très importante sur la faim.
Hein, et les gens ont tendance à pas manger assez de protéines, justement
Oui, surtout actuellement. Vous savez qu'il y a la mode du
vegan.
Du vegan et dans le bio, il y a aussi cette notion qu'on va manger moins de protéines alors que ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas grave, ça commence à s'inscrire chez les gens. Et ils diminuent spontanément leur quantité de protéines, en trouvant que ce n'est pas très bon de manger trop de protéines.
Jimmy ?
Souvent, le midi, on n'a pas beaucoup le temps de se poser à table et de manger. Et puis, on peut engloutir un sandwich en 5 minutes.
Ça, je vous ai vu déjà plusieurs fois, arriver en sortant de consultation avec votre sandwich que vous terminez rapidement.
Alors,
avant l'émission.
Le sandwich est un bon aliment parce que c'est une quantité de pain important, environ 80 grammes de pain. Dedans, il faut l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans, qu'on ne vous vende pas non plus des choses insignifiantes. Donc, il faut qu'il y ait quand même au moins, admettons, deux tranches de jambon, de roast beef ou de poulet.
Un peu de salade.
Que ce soit conséquent. Oui, la salade, il n'y en aura jamais beaucoup parce qu'autrement, vous n'y arrivez pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais par contre, il faut rajouter un fruit.
En plus.
Vous rajoutez un fruit parce que dans le fruit, vous avez à la fois des fibres, vous avez un peu de vitamines et vous avez du volume. Si vous rajoutez une grosse pomme, vous avez 200 à 240 grammes en plus de votre sandwich et vous arrivez quand même déjà à 700, 750 grammes.
Et même si on le mange très vite, en 5 minutes, ce n'est pas très grave.
Alors, c'est vrai que ça pose un problème. Ça dépend de votre état de rassasiement. Si vous avez un fort appétit, il faut manger lentement parce que comme le signal du rassasiement met 15 minutes pour arriver au niveau du cerveau, pour être perceptible, à ce moment-là, évidemment, vous aurez envie de manger autre chose. S'il y a un flan qui traîne, un brownie, vous allez ajouter.
Ah, vous me connaissez bien.
Voilà. Mais autrement, non, vous pouvez manger rapidement, effectivement, si vous n'avez pas ce problème.
Mais vous dites presque qu'un sandwich, finalement, à midi, ça ne suffit pas, en fait, en quantité. On a l'impression que ça risque de faire grossir ou je ne sais pas quoi, mais en fait, ce n'est pas suffisant.
Oui, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, sachant qu'un sandwich, ça contient des féculents, des protéines et un peu de graisse.
Alors, dans votre livre, vous parlez aussi de ces cas pas si rares de gens qui mangent la nuit. J'avoue que moi, ça m'est déjà un petit peu arrivé dans des périodes de fatigue, quand on a les enfants petits, qui ne font pas leur nuit, etc. Se lever pour manger du sucre, par exemple, parce que c'est une sorte de réponse pour s'endormir plus facilement. Moi, c'est vrai que j'étais rentrée là-dedans, j'avais pris l'habitude toutes les nuits. À un moment donné, on se lève à 3h du matin, parce qu'on se réveille systématiquement à 3h du matin. Et la réponse, c'est je mange un truc sucré, je me rendors. Comment on explique ça ?
Oui, parce que c'est un moment où on se fait du bien, justement.
Puis il n'y a pas de bruit, c'est calme.
Puis c'est un moment où c'est calme. Justement, toute la nuit est là pour soi. Personne ne vient vous embêter, vous gêner, et vous pouvez en profiter pleinement. Donc, c'est la raison pour laquelle, souvent, un certain nombre de personnes, effectivement, mangent la nuit.
C'est fréquent, ça ?
Oui,
ouais.
C'est assez fréquent.
Ouais, c'est absolument. Plus les femmes, les hommes, on se pose, non, c'est un peu tout le monde.
Enfin, ce que je constate, moi, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui se mettent à manger la
nuit.
Parce que c'est leur moment à eux.
Tous un peu la même chose, ils ne vont pas manger des crudités en plein milieu de la nuit.
Ils vont manger, alors certains mangent tout ce qui se trouve dans le frigidaire. Alors, ça peut être des crudités, ça peut être des crudités, des yaourts, des pâtes, n'importe quoi. Mm-hmm. D'autres ont des aliments bien spécifiques. Voilà. Mais
moi, c'était les gâteaux des enfants.
Voilà. Ouais.
Et comment on l'explique ça, Patrick Serroc, cette espèce de je ne sais pas si c'est de la boulimie, mais d'envie alors, nocturne de faire un quatrième repas quasiment. Hein.
Oui, il y a une peur de ne pas se rendormir. Et on s'aperçoit que lorsque l'estomac est un peu plus rempli...
Encore cette idée de distendre l'estomac qui va nous faire nous mettre bien...
À ce moment-là, on s'apaise et on peut... souvent, on est réveillé parce qu'on a finalement un souci, parce qu'on a un stress, parce qu'on a quelque chose qui nous perturbe. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin effectivement d'aliments pour pouvoir se relaxer.
Revenons un tout petit peu pour terminer sur les kilos émotionnels. Une fois qu'on a fait sauter tous les verrous dont on a parlé, il va falloir quand même parfois se mettre au régime. Mais pour commencer un régime, alors pas un régime d'ailleurs, une réadaptation alimentaire, on va dire, il faut trouver le bon moment. Il faut d'abord régler ses problèmes, hein, c'est ça, Roselyne ?
Enfin, le bon moment, ça veut dire qu'il y a des moments effectivement où on peut avoir la disponibilité d'esprit, la disponibilité tout simplement pour comprendre ce qui se passe en soi et comprendre ce qui se passe dans son rapport à l'autre. Puis il y a des moments où c'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est important de trouver le bon moment pour faire ce travail sur soi et du coup pour faire un régime.
Un petit mot pour terminer, docteur Serog, est-ce que les kilos émotionnels, ça concerne aussi les enfants ?
Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, on avait écrit un premier livre avant celui-là qui s'appelait « La guerre des repas n'aura pas lieu ». Et c'est vrai qu'au cours du repas, il y a souvent des batailles qui se passent entre les parents et les enfants. Et ce sont là, justement, où les premières émotions vont ressortir. Et si on ne résout pas ces problèmes quand on est enfant, ben on va les traîner toute sa vie en étant adulte.
Votre conseil très rapide pour les parents, on fait quoi par rapport à ces enfants qui sont peut-être en surpoids déjà ?
Pour les parents, c'est de regarder qu'est-ce que les enfants font pour eux. Les enfants font énormément pour les parents. Hein, ils vont les regarder, les aimer, ils vont descendre la poubelle, ils vont parfois les aider à mettre la table. Ils sont inquiets pour eux. Et toute cette inquiétude-là, eh bien, il faut que les parents puissent le ressentir, le voir et les remercier pour tout ce que ces enfants font pour eux.
Et ça, il y a un impact dans l'assiette, alors, du coup, et sur les kilos des enfants.
Eh bien, exactement, il y a un impact dans l'assiette.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Nous donner vos bons conseils pour en finir avec les kilos émotionnels. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je ne peux que conseiller votre livre « Faites sauter les verrous psy qui vous empêchent de maigrir » aux éditions Marabout. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les mots du quotidien ». Et aujourd'hui, on s'est intéressé à la narcolepsie. Savez-vous ce qu'est réellement ce trouble du sommeil ? Certes rare, mais qui peut être très invalidant. On en parle juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de la narcolepsie. Savez-vous ce qu'est précisément ce trouble du sommeil ? Est-ce fréquent dans la population et comment ça se traite ? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
La narcolepsie, c'est très drôle, c'est quand tu t'endors partout sans raison apparente.
Par exemple, je ne sais pas si c'est déjà arrivé précisément, mais en conduisant, enfin, j'imagine qu'un narcoleptique n'a pas le droit de conduire.
Vous pouvez parler avec une personne et puis tout d'un coup, hop, elle s'endort comme ça directement et elle a besoin de ça. En fait, c'est une personne, mais c'est une maladie du coup qui est très compliquée au quotidien et souvent ces personnes-là, elles sont plus à même à travailler parce que c'est compliqué à suivre. Une journée de travail, même quelqu'un qui conduit ou autre, c'est compliqué.
Moi, je pense dans ces cas-là, prévoir des sortes de salles, enfin, bon, ça va être comme l'infirmerie, mais peut-être un peu mieux quand même que l'infirmerie, et trouver un moyen de dire, bah, si vous sentez, allez-y, s'intégrer dans le travail, on sait, et on gère en fonction des heures, les plannings, que vous n'êtes pas quelqu'un qui va être à 100% là, et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas nécessaire à la boîte.
Bon Jimmy, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de parler du manque de sommeil, de l'insomnie chronique, mais aujourd'hui on a décidé de parler un peu de l'hypersomnie. Enfin, il y a plusieurs types d'hypersomnie, mais en tout cas là on va parler de narcolepsie. Qu'est-ce que c'est Jimmy ?
Alors c'est une maladie chronique qui est rare, c'est une personne sur 3 à 5 000. Elle est non curable et elle survient entre l'âge de 10 et 30 ans. C'est un trouble du sommeil qui est caractérisé par un sommeil nocturne qui est de durée normale, mais de qualité médiocre. Associé à une somnolence diurne, tout d'un coup on va avoir envie de dormir de façon excessive avec cette sensation d'endormissement irrépressible que peuvent survenir à tout le monde la journée, même en pleine activité. Ça peut être impressionnant, notamment lorsque s'associe ce qu'on appelle la cataplexie.
Ouais, c'est
présent dans 70% des cas, c'est-à-dire une chute brutale, qu'elle soit partielle ou totale, du tonus musculaire. Pouf, tout d'un coup, on s'effondre.
Ah ouais.
Et donc à ce moment-là, il y a un haut risque d'accident, de chute et de blessure.
Ça veut dire que ces patients, ils s'écroulent tout d'un coup comme ça, pouf, ils tombent.
Exactement.
Ils s'endorment et pouf, ça chute.
Ça peut aller du simple affaissement de la mâchoire, du cou de la tête ou des épaules, voire, comme vous le dites, à la chute de tout le corps. Ces cataplexies peuvent être favorisées par des émotions fortes ou inattendues, la peur, un fou rire ou la joie, et surviennent dans les 4 ans qui suivent le début des premiers symptômes de somnolence.
Ouais, c'est impressionnant ça, la cataplexie, c'est ça. Hein, quelles sont les causes, s'il y en a, qui ont été identifiées d'ailleurs de ce trouble?
Alors cette maladie, elle est attribuée à la perturbation de sécrétion d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'hypocrétine. Elle a pour conséquence un fonctionnement anormal des mécanismes de régulation du cycle veille-sommeil. L'origine de cette disparition n'est pas connue. Elle pourrait être d'origine génétique ou immunologique, mais les choses ne sont pas très claires.
Et d'accord, et est-ce que ça soigne? J'espère qu'on a des traitements quand même.
Alors la prise en charge de la maladie repose essentiellement sur la bonne gestion du sommeil, avec notamment la pratique de siestes régulières dans la journée. Et puis il y a certains traitements qui peuvent aider. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'il faut se faire suivre dans un centre du sommeil spécialisé, car la prise en charge, elle est longue et parfois un peu difficile.
Donc, il faut que ce soit très encadré par des spécialistes. Alors, vous disiez qu'il y a des médicaments. Quel type de médicaments on peut donner à ces patients?
Alors, on s'est intéressé à l'INSERM qui a publié des choses dessus. Et en gros, on peut utiliser un traitement qui s'appelle l'oxybate de sodium. Alors, derrière ce nom un peu compliqué, se cache un dépresseur du système nerveux qui induit un sommeil profond, réduit par conséquent les périodes de sommeil diurne et limite la fréquence des épisodes de cataplexie. C'est un agent anesthésique, sauf qu'on sait qu'il peut aider. D'autres traitements peuvent aider, notamment certains antidépresseurs. Et depuis 2016, il y en a un traitement qui s'appelle le pitolisant, qui réduit la somnolence diurne et atténue les manifestations de cataplexie, qui sont parfois impressionnantes.
Bon, et donc cette maladie, on a compris qu'elle n'est pas encore tout à fait bien connue. La recherche est encore active sur le sujet, même si donc les mécanismes, on ne les connaît pas encore. Je sais qu'il y a d'autres pistes de traitement, Jimmy, hein, qui sont en cours d'évaluation.
Oui, pour le moment, on ne fait que traiter les symptômes, sans pour autant guérir la maladie. Et donc, il y a une piste qui est à l'étude. Comme on a un problème de cette hypocrétine, cette hormone dont on manque, l'idée serait d'essayer de construire avec des cellules souches une cellule qui pourrait sécréter cette hypocrétine pour la remplacer. Donc l'idée serait de les injecter directement dans le cerveau, niveau de l'hypothalamus. Alors c'est une piste, c'est pas pour demain, c'est peut-être dans quelques années, mais il y a un petit peu d'espoir et peut-être que la recherche demain pourra mieux prendre en charge ces malades qu'on ne le fait actuellement.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
On se retrouve dans quelques minutes sur Europe 1 avec votre émission Santé sans rendez-vous. Mais en attendant, un petit peu de musique, c'est Kim Carnes et son titre Bette Davis Eyes.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Babette. Je vous la lis. Je suis avec mon mari depuis que je suis très jeune. À partir du moment où j'ai eu mes 3 enfants, la sexualité est passée au second plan. Mais depuis que mes enfants sont partis de la maison, du jour au lendemain, mon appétit sexuel a décuplé. Comment expliquer ce changement? Alors Catherine, lorsque les enfants quittent le nid familial, c'est une étape clé, j'en suis sûre même, de la vie des parents. Il peut y avoir ce syndrome du nid vide, mais apparemment, chez certains, il peut y avoir un appétit sexuel retrouvé de manière assez fabuleuse.
Oui, pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on peut aussi, on peut cliver le rôle de parent et le rôle d'amant. Et quand on est tout à son rôle de parent, on peut se trouver dans la difficulté de laisser son imaginaire et sa liberté corporelle s'exprimer pour une sexualité libre, tranquille, épanouissante et créative. Et puis, il y a une autre raison à cela, c'est que quand les enfants s'en vont, le désir retrouvé est décuplé. Peut-être aussi parce que cette maman, puisque c'est la maman qui parle là, n'ayant plus d'enfants, sa sexualité au départ était active pour faire des enfants. Mmh. Là, il n'y a plus d'enfants. Et assez naturellement, même si elle n'a plus de projet d'enfant, elle se remet en fonction pour remplir le nid.
Mmh, comme si elle allait faire encore d'autres enfants.
Comme si elle allait faire encore.
Pas son projet,
même
vraiment,
si ce n'est pas du tout son projet. D'accord. Et comme du coup, évidemment, elle est dans un deuxième temps de sa vie, peut-être plus du tout dans un temps de fertilité, à ce moment-là, c'est une sexualité qui va trouver un nouvel écho, puisque comme ça ne va pas être gratifié par des bébés, elle va rencontrer justement son amoureux, comme peut-être ne l'a-t-elle jamais rencontré.
Ça a l'air chouette en tout cas. Jimmy?
Vous avez l'air pressé.
Non, moi je suis encore à la maison et pour un bon moment.
Et tout va bien. Est-ce que ça touche tous les couples justement ou c'est quelque chose qui est plutôt rare? Est-ce que c'est plus fréquent?
Ce retour de flamme,
est-ce que c'est une constante
ou
c'est
non. Quelque... non, il y en a qui au contraire sont dans un baby blues
On parle de ça, surtout les mamans qui ont du mal une fois que les enfants ont quitté le nid.
Ça impacte aussi la libido, le baby blues qui fait que du coup les enfants sont partis. vie et on a encore moins envie.
Absolument, parce qu'elles sont toutes à la tristesse de.
C'est une dépression pour certaines, non ?
Oui, ouais. Bien sûr, elles sont à la tristesse de ne plus avoir de fonction, quand bien même elles ont des fonctions professionnelles, mais surtout celles qui sont mères au foyer, à moins bien sûr que les enfants soient en projet eux-mêmes de faire des enfants. D'ailleurs, elles réclament pour certaines de devenir grand-mère pour pouvoir avoir une fonction. Et, donc, ça peut être plutôt aggravant de leur sexualité pour nombre de femmes, hein, et notamment, encore une fois, de femmes au foyer.
Et les enfants sont tous partis, apparemment, donc, chez Babette. Vous dites que, bon, il peut y avoir ce regain parfois, ou à l'inverse, une sorte de dépression du nid vide. Mais c'est parce que, clairement, tant que les enfants sont là, il y a ce problème où il faut se cacher, être plus discret. Et le fait qu'il n'y ait plus personne, c'est ouh, c'est, ils peuvent le faire n'importe quand, n'importe où, c'est ça ?
Bien sûr, il faut quand même.
C'est une liberté technique, quoi, en
bien
fait.
Sûr, il faut quand même mesurer. Le recul des libertés que sont ceux des parents à notre époque, les lieux sont petits ou en tout cas les proximités sont plus importantes. Les relations sont des relations assez étroites entre les parents et les enfants, parfois où les enfants sont très proches, où il y a des petites cloisons entre les uns et les autres. Ça rend, et heureusement, d'ailleurs, ça inhibe beaucoup la sexualité des adultes, et heureusement, parce que des adultes qui ne s'encombreraient pas de ça, s'encombreraient pas du regard ou des oreilles de leurs petits, seraient des adultes malveillants. Donc, c'est vrai
bon,
que c'est
maltraitant.
Et maltraitant, ouais. Absolument. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. On ne fait pas toutes les positions du Kama Sutra, on n'éclate pas de jubilation et de jouissance au effort, on ne se permet pas de se courir après dans la maison ou l'appartement.
Mais là, chez Babette, maintenant, c'est tranquille.
Et maintenant, ben voilà.
Il faut qu'elle en profite, c'est ça peut-être aussi votre conseil pour elle.
Dans la mesure où, de toute façon, je n'ai même pas besoin de la conseiller, manifestement, ça a décuplé, elle a trouvé la voie toute seule.
Jimmy ?
Est-ce que ça touche aussi les hommes ? Est-ce que les hommes aussi, tout d'un coup, ont une libido qui est décuplée ou de base, eux, leur libido, comme dans les clichés qu'on veut faire croire, est au summum et ils sont à disposition. Si madame veut plus, l'homme donnera plus.
Wow. Alors, c'est les clichés, les clichés ont toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. C'est aussi parce que c'est une lecture que les hommes ont d'eux-mêmes et à laquelle ils s'appliquent, bien évidemment. Donc les hommes peuvent trouver tout d'un coup dans la disponibilité de leur femme une occasion merveilleuse. C'est pas tellement qu'ils répondent nécessairement au désir féminin, mais c'est ça leur donne une occasion incroyable de pouvoir justement occuper tout l'espace qui leur avait été un peu grignoté par des petites têtes au sein de ce foyer. Maintenant, il y a aussi des hommes qui se sont habitués à un autre mode de fonctionnement et peuvent être surpris d'une demande qui leur serait faite à ce moment-là et peuvent être déstabilisés aussi.
Très bien, donc ça peut toucher tout le monde. Merci beaucoup.
Absolument.
Catherine, pour tous vos précieux conseils. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours, de 15h à 16h. Mais tout de suite, je cède la place à Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez avec nous. Ce soir, c'est le retour sur M6 de Top Chef, une 11e saison. C'est le chef Michel Sarran qui est avec nous pour en parler. Et je crois qu'aujourd'hui, nos journalistes vont un peu le malmener. On va notamment parler d'une dinde au goût de carotte. Nouvelle expérience des scientifiques qui risquent de le tournebouler.
Ouais, ça promet Mathieu. Évidemment, on va écouter ça avec le docteur Jimmy Mohamed. C'est promis. Et vous, restez sur Europe 1. Hein.